Donc ils suivent en quelque sorte le sort de la chose principale qui est l'exploitation agricole. Donc en fait, on a des dispositions qui protègent les animaux, qui sont spécifiques à chacune des catégories d'animaux. On a les animaux domestiques. Au sein des animaux domestiques, on a évidemment des dispositions propres aux animaux d'élevage, aux animaux d'expérimentation, etc. Et sous réserve donc, de toutes ces dispositions, on dit que les animaux sont tout de même soumis au régime du droit des biens. Et donc, sous réserve des lois qui les protègent, ils demeurent tout de même des biens meubles ou immeubles par destination. Et simultanément, on dit que ce sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc on a des juristes après qui vont commenter en disant, voilà, on est en train de sortir les animaux de la catégorie des choses pour les transporter dans la catégorie des personnes. Les animaux seraient comme en état d'apesanteur. Voilà. Et on peut aussi dire finalement, et ça serait moi ma proposition, c'est de dire que, en fait, il faut cesser d'identifier les choses à des objets de droit, cesser d'identifier les personnes à des sujets de droit et considérer bien plutôt les choses et les personnes en interaction. Considérer plus précisément les choses comme des habitats et les personnes comme des habitants. Et ça change tout, parce qu'alors on n'a plus à se poser la question de savoir si les animaux sont bel et bien toujours des biens meubles ou s'ils sont devenus des personnes, etc. Puisque, en définitive, si les animaux sont considérés considérées comme des habitats et les personnes comme des habitants, tout un chacun, humain ou non humain, pouvons, dans tel ou tel contexte, être considérés comme des choses ou bien comme des personnes. Vous, dans une relation de travail, par exemple, vis-à-vis de votre employeur, vous êtes soumis vous avez un lien de subordination avec votre employeur, vous pouvez très bien être considéré comme une chose. Votre force de travail est une chose. Et dans d'autres relations, dans d'autres contextes, au contraire, vous allez apparaître comme, par exemple, l'habitant de l'immeuble dont vous avez éventuellement la propriété. Et donc, si on change comme ça la lunette qu'on cesse d'identifier les choses à des objets de droit et les personnes à des sujets de droit, la question de savoir si les animaux sont des choses ou des personnes, finalement, c'est plus véritablement le problème. Parce que même si ce sont des choses, si on considère que ce sont à ce moment-là des habitats, des êtres habités, eh bien, il faut tout de même les respecter. Et donc ça change complètement. Enfin voilà, ça permet de sortir de cette aporie à mon sens.
Et Sarah, et une question. Tu penses que le modèle de Quater avec c'est Équateur, je ne sais pas,
oui,
où il y a l'Assemblée constituante qui a mis Pachamama comme aussi un sujet des droits, c'est un sujet des droits, je ne sais pas le mot spécifique, ouais. Et qui d'une certaine manière c'est aussi une façon de protéger les droits de la science avec la S majuscule, parce qu'il la science avec la S majuscule, elle a plein de problèmes qu'on connaît déjà beaucoup. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi un modèle qui peut être élargi ou utilisé dans d'autres communautés, dans d'autres endroits, etc. Parce que même, je pense que le fleuve de la Nouvelle-Zélande, il était compris par le droit comme un sujet lié à la communauté, donc c'était la communauté qui avait les droits de parler pour ou avec le fleuve. Je parle d'une perspective du Brésil où les droits sont complètement foutus, donc qu'est-ce que tu penses si ça c'est un modèle qui est touchable pour nous dans l'avenir ou dans le présent, pour l'avenir de ces côtés des juristes? Qu'est-ce que je pense?
Il y a plein de juristes français qui disent que c'est que ça ne correspond pas à la manière occidentale moderne de voir les choses. Je pense que c'est complètement faux, parce que en fait ce mécanisme de représentation de la nature, il est éminemment moderne. Et que si on allait faire l'histoire de ce mouvement de personnification de la nature, on trouverait plein de juristes occidentaux derrière, j'en suis sûre. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, c'est un juriste de l'IRD qui est aussi derrière. Donc, c'est pas du tout pour contester le mouvement. C'est pour dire qu'à mon avis, ça peut aussi nous parler à nous, ici, en France, et que c'est pas simplement une solution animiste. À mon avis, elle n'est pas animiste. C'est au contraire, on permet à des êtres humains de prendre la parole au nom de non-humains. Après, il y a plein... Après, on peut pas vraiment parler du mouvement de personnification de la nature au singulier. Parce qu'en fait, il y a plein de mouvements de personnification de la nature. En Équateur et en Bolivie, c'est la nature, la Pachamama, la terre-mère, complètement de manière totalement abstraite, en fait, qui est personnifiée, à qui on accorde des droits. Donc ça peut être contesté comme n'étant pas finalement respectueux de la manière de voir de la multitude... De peuples autochtones qui résident. Après, pour, par exemple, le mouvement de personnification des animaux, lorsqu'on accorde la personnalité juridique, on demande à la reconnaître à des chimpanzés, là aussi, on peut contester, parce que finalement, on reste individualiste. On se limite à étendre la communauté des sujets de droit à certains non-humains, parce qu'ils nous ressemblent profondément. Oui. Ça peut être contesté. Donc ce qui paraît plus intéressant peut-être à suivre, c'est le mouvement effectivement de personnification du fleuve en Nouvelle-Zélande, parce que là, effectivement, on va reconnaître à un peuple maori en particulier, enfin en tout cas, ce n'est pas le seul qui a le droit de parler, mais en tout cas, on va lui reconnaître un droit de parler, et on peut dire que le peuple maori à qui on accorde le droit de parler au nom du fleuve, parle au nom de lui-même, en définitive, en parlant au nom du fleuve. Et donc c'est là où, me semble-t-il, on dépasse la seule question de la représentation, le seul mécanisme de la représentation, et finalement où on accorde des droits non pas tant à un fleuve, à un non-humain, mais bien plutôt à un écosystème, à un milieu, à une manière même de vivre. Et donc voilà, c'est peut-être à mon avis ça qui est le... Enfin, et là, on retrouve d'ailleurs le mouvement des communs, parce que c'est reconnaître des droits collectifs. C'est pour ça que, en fait, ça dépend vraiment de chaque État. Chaque État a sa solution. En France, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, il y a juste une disposition dans un des trois codes de l'environnement de Nouvelle-Calédonie qui dit que l'on pourra, à l'avenir, reconnaître la personnalité juridique à des éléments de la nature qui sont particulièrement représentatifs de l'identité kanak. Mais voilà, après, qui sera particulièrement représentatif de l'identité kanak ? Mais je voudrais dire qu'évidemment, ça paraît poser d'innombrables difficultés, mais ces questions-là, de toute manière, à mon avis, c'est bon qu'elles se posent, c'est bon qu'émergent des conflits, c'est bon qu'émergent des discussions, et que l'on se dispute à propos de qui a le droit de parler au nom de qui. Et voilà. Donc pour moi, je ne suis pas du tout contre le mouvement de personnification de la nature. C'est plutôt quelle direction prendre parmi toutes celles qui s'offrent à nous et comment aller au-delà de cette question de la représentation qui me semble encore une fois éminemment moderne ou naturaliste, comme on veut. Enfin.
Julien ?
Oui, effectivement, ça amène plein de questions. J'ai deux questions, mais peut-être c'est une seule. Sur les éventuelles jurisprudences dans ces endroits où il y a un droit qui a été attribué, donc un élément naturel ou un écosystème, et quelle différence y aurait-il dans le discours, enfin dans la façon de tourner le discours entre la personnalisation en droit d'un écosystème et puis ce que vous avez décrit sur les servitudes. Est-ce que dans la façon de défendre dans un éventuel procès, j'essaie d'être très pratique parce que ça me pose plein de questions, quelle différence il y aurait dans le discours et dans la parole de, je sais pas, d'un avocat, par exemple.
C'est vraiment très différent comme approche, parce que dans le cas des... Alors, pour la personnification de la nature, on a tout de suite vu les limites de la chose. Hein. Je ne sais plus si c'est en Équateur ou en Bolivie, il y a un parc finalement qui a été ouvert pour une extraction minière. Yasuni, c'est ça, hein, le parc de la Yasuni. Finalement, on a fait voter les députés pour voter, je ne sais plus si c'était une loi d'exception, enfin en tout cas, on a permis l'extraction minière, donc extraire des minéraux des entrailles de la terre-mère, alors qu'a priori, c'était complètement contraire. Donc, il y a toujours des moyens de contourner, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a certains juristes français disent que c'est inutile, que c'est pas intéressant, etc. Moi, je suis pas du tout parce qu'à ce moment-là, il y a toujours un écart entre le droit et les faits. Et donc, dans ces cas-là, voilà, on s'intéresse plus au droit, on fait autre chose. C'est tout à fait possible, mais ça me semble pas une critique juridique très pertinente. Après, pour l'écart entre servitude et personnification de la nature, encore une fois, je pense que c'est complémentaire. Prenez par exemple les parcs nationaux. Les parcs nationaux en France, ils ont la personnalité juridique. C'est écrit noir sur blanc en fait. C'est des personnes morales de droit public qui ont la personnalité juridique. Donc on peut très bien dire que nous aussi, on connaît la reconnaissance de la personnalité juridique à la nature, puisque, je ne sais pas, le parc national du Mercantour ou d'autres ont la personnalité juridique. Lorsqu'on crée un parc, donc vous voyez déjà, on voit tout de suite les limites de la reconnaissance de la personnalité juridique à la nature. Ça ne suffit pas, évidemment, pour protéger une aire. Lorsqu'on crée un parc national ou d'autres aires protégées, ça peut être des sites, etc., généralement, on va justement instituer des servitudes. Des servitudes qui sont alors un petit peu différentes de celles que je vous ai décrites, mais à mon avis, ça se rattache, des servitudes dites d'utilité publique. Et alors, on va interdire, par exemple, pour protéger une espèce d'oiseau, de bâtir, de construire, d'extraire, d'abattre des arbres, etc. Et donc, tout se passe, me semble-t-il, comme si on accordait des droits à une espèce d'oiseau, ça peut être une espèce de fleuve, de fleur, par le biais des servitudes. Tout se passe comme si le fond de terre, finalement, donc l'air protégé, était affecté à un collectif d'oiseaux ou un collectif de fleurs. Et donc, comme si on avait effectivement un droit des dits fleurs ou des dits oiseaux sur l'air protégé. Donc, je pense que servitude et personnification de la nature, ce sont deux mécanismes juridiques qui peuvent se rejoindre. En tout cas, ce qu'on voit pour les oiseaux, par exemple, c'est que des oiseaux, la Camargue, ou même certaines aires qui sont protégées, parce qu'on sait que les oiseaux passent ou nidifient à cet endroit, on va donc le protéger, on institue une servitude d'utilité publique, on institue, par exemple, de bâtir tout simplement sur cette aire, et bien tout se passe comme si l'air protégé était destiné finalement aux oiseaux, comme si les oiseaux se voyaient reconnaître des droits d'habiter une période de l'année le territoire. Et peut-être que ça rejoint encore une fois les collectifs d'insectes. On pourrait peut-être voir aussi à reconnaître des servitudes au profit, des servitudes d'utilité publique au profit de certains insectes. Ou non, d'ailleurs. Hein. On pourrait au contraire grever des droits d'obligation. Donc, en fait, pratiquement, il faut voir que le droit des servitudes aujourd'hui, en droit de l'environnement, il est en train de se réouvrir. Mais là, c'est des choses assez techniques. Mais dans la loi de 2016, on a créé l'obligation réelle environnementale, qui est une manière de servitude environnementale et qui permet à un propriétaire privé d'affecter son bien à la protection de l'environnement. Et si le propriétaire privé revend son bien à des ayants droit, des acheteurs, les acheteurs se devront de respecter la destination environnementale du bien. Donc en fait, je pourrais encore donner d'autres exemples avec la jurisprudence relative au droit de jouissance spéciale, mais bon, c'est autre chose, qui est aussi une manière de faire revivre le droit des servitudes. Donc si vous voulez rattacher ces différentes jurisprudences, ces différentes décisions de justice qui sont en train de faire renaître le droit des servitudes au mouvement de personnification de la nature et plus globalement au mouvement d'attribution des droits, je pense que ça nous permettra d'avoir une vision plus cohérente en fait des choses qui se passent. Ça n'apporte pas directement de solution pratique, mais par contre, ça peut permettre de dire voilà ce que nous faisons avec le droit des servitudes, c'est en fait nous attribuons des droits aux choses de la nature. Et en le disant, peut-être qu'on agit de manière un peu tout simplement performative et qu'on fait advenir les choses et qu'on fait advenir un autre droit qui ne serait plus un droit dit naturaliste, mais pourquoi pas animiste ou analogiste ou que sais-je encore.
Merci.
Je, j'ajoutais juste donc sans passer nécessairement par la personnalisation, qui est un autre moyen d'arriver peut-être aux mêmes fins, mais.
J'ai juste une précision, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais est-ce que cette proposition de, est-ce que c'est une proposition de faire, de mettre les, donner des droits aux moustiques, aux insectes, ou est-ce que c'est dans le but de faire une loi, ou est-ce que c'est dans le but de, d'une éducation civique à instaurer dans le pays ou dans la mentalité des habitude des gens.
Il n'y a évidemment pas de, de vocation, on va dire, normative générale à ce que je viens de dire. Parce que, pour le dire très simplement, je ne prétends pas dire demain le législateur doit accorder des droits à tous les insectes ou à tous les virus. C'est pas du tout le propos. Mais au cas par cas, petit à petit, effectivement, on peut penser l'attribution de droits à certains animaux ou à certains champignons ou à certaines fleurs pour telle ou telle raison. Et je dis juste que, en fait, ce mécanisme d'attribution de droits à des non-humains, il existe déjà. Et il existe notamment dans le droit des servitudes.
Pas pour les insectes, forcément. Mais
pas forcément pour les insectes. Mais vous, enfin, ça peut paraître comme ça une évidence. Mais il faut bien avoir en tête que dans les facultés de droit aujourd'hui, mais c'est pas seulement dans les manuels, vous ouvrez n'importe quel manuel de droit civil, vous verrez, on vous dit toujours que les non-humains sont des objets de droit, les humains, eux, sont tous, désormais, il n'y a plus d'esclavage, sont tous désormais des sujets de droit. Et on vous dit que les non-humains ne peuvent pas avoir de droit. On oppose les personnes aux choses comme les sujets de droit aux objets de droit. Et on dit que seuls les êtres humains sont sujets de droit.
Oui, c'est encore un débat, un stade de débat, pour comprendre ou attribuer, je ne sais pas, une spiritualité aux insectes.
Voilà,
aux
ce que j'essaie, c'est de relire autrement.
Ou quelque chose comme ça, non, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est juste
ici, pour la France, c'est peut-être pour aller plus loin et dire, voilà, il y a une loi même sur les insectes. Il faut éduquer les gens à respecter la vie des insectes, c'est ça?
Si vous voulez, c'est proposer de nouvelles lunettes pour lire des textes que l'on a l'habitude de lire autrement.
Oh, des textes
qui existent déjà. Voilà.
Je vous propose de continuer la conversation autour d'un café pour prendre une petite pause pour laisser la place à la dernière intervention.
5 minutes. Merci, Sarah.